Radio Kapi. Mesdames, Messieurs, voici les deux titres principaux de votre journal. Au Nord Kivu, situation tendue au quatrième jour des manifestations hier à Butembo et Beni. En réaction, les caucus de députés du Nord Kivu disent comprendre l'exaspération des manifestants, mais leur demandent de ne pas recourir à la violence. De leur côté, les évêques catholiques de la Senco lancent le message « Arrêtez de tuer vos frères ». Les docteurs Amédée Prosper Duguindé, chargé de bureau de l'OMS, est l'invité de ce journal. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les questions relatives au coronavirus. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, d'abord cette information qui fait état de plusieurs personnes qui sont mortes calcinées lors d'un accident de circulation. C'était hier jeudi sur la nationale numéro 1 au niveau du village Kiwawa, situé à 20 km de la cité de Massimanimba dans la province du Kwilu. Suivez les explications du gouverneur de la province du Kwilu, Willy Ichundala, qui a été joint au téléphone par Irène Boma.
À Kiwawa, village situé sur l'asphalte à 20 km de Massimanimba, bus des établissements Biochar, transportant plusieurs personnes et le bidon d'huile, s'est renversé et directement incendié, plusieurs personnes calcinées et les quelques survivants sont rapidement ramenés à Massamouna pour les premiers soins cet après-midi. Donc le bus venait, voulant dévier une voiture Kedge, s'est allé renverser à côté et directement il y a eu flamme. Envoyer rapidement une équipe sur le lieu, notamment l'administrateur du territoire. Certains agents de l'État sont allés là-bas pour nous donner des informations plus fiables. Le nom des établissements dont appartient le bus, c'est Biocha. On partait de Chikapa pour Kinshasa, beaucoup de calcinés, les quelques rescapés sont à l'hôpital de Massamouna. Le vrai problème, c'est l'état d'esprit d'abord du conducteur, éviter les prêts, disons, la boisson, l'excès de vitesse, donc que les chauffeurs puissent prendre conscience de respecter scrupuleusement le code de la route.
Les députés nationaux du Nord Kivu disent comprendre la colère des populations qui manifestent depuis quelques jours contre la persistance des tueries à Beni et dans d'autres territoires de l'Est. Ces élus demandent cependant au peuple de cette région de ne pas entrer dans le jeu de l'ennemi en détruisant le paix d'infrastructures existantes, mais plutôt de préserver l'unité et la cohésion pour leur barrer la route. C'est ce qu'a déclaré hier soir au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa-Utex le président de ces caucus. C'était à l'issue d'une séance de travail avec Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Le député Singo Mamwanza est au micro d'Honoré Misenga Kalala.
Nous avons un objectif commun à nous tous, qui est de rétablir la paix et la sécurité. On a souhaité en tout cas échanger avec la représentante qui nous a écoutés. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que manifester, c'est un droit, oui, nous l'acceptons. Mais la destruction des biens, le peu d'infrastructures que nous avons, ça, ce n'est pas bien. Donc c'est aussi un appel quand même à préserver l'infrastructure que nous avons. Donc c'est vraiment un appel qu'on fait aux populations du Kivu, parce qu'ils doivent se rappeler qu'aujourd'hui, nous tous ressortissants du Kivu, nous ressentons en tout cas cette douleur de ce qui se passe là-bas. Comme on l'a toujours dit, c'est dans l'unité plutôt de préserver ce que nous avons, pour ne pas faire le jeu de l'ennemi qui veut absolument créer la division, créer le désespoir, que nous allons réussir cette bataille. Donc cette guerre n'est pas seulement une guerre des forces armées ou militaires, c'est pratiquement aussi une guerre sur comment nous allons préserver notre société et notre communauté, notre cohésion.
Arrêtez de tuer vos frères. C'est par cette interpellation que les évêques catholiques recommandent des restructurations profondes, partant de la présidence de la République, en passant par les gouvernements, jusqu'au niveau des forces armées de la RDC, en vue de faire face aux problèmes d'insécurité et des massacres dans l'est du pays. Dans un plaidoyer de paix et de compassion avec la population de l'est hier jeudi à Kinshasa, les évêques de la Senco ont dépeint un tableau sombre de la situation de sécurité dans l'est, caractérisée entre autres par la porosité de nos frontières, la démotivation des militaires. En voici quelques recommandations lues par le secrétaire général de la Senco, l'abbé Donatien Cholet, au micro de Jeff Ngoy.
Les forces armées de la République se caractérisent dans cette zone par une sédentarisation de certains officiers qui sont restés longtemps dans la région et s'opposent à être déployés ailleurs. La mendicité et le détournement de la solde des militaires de rang et de leurs rations, d'où l'amenuisement de leurs motivations. C'est pourquoi nous recommandons la refondation structurelle qui concerne la présidence de la République et le gouvernement central. Nous préconisons une refondation de la vision, des approches et des structures à divers niveaux, l'épuration de la sorte des militaires, la permutation effective des officiers affectés à l'Est. Il s'avère urgent de déplacer tous les officiers militaires ayant évolué dans les différentes rébellions aux groupes armés à l'Est du pays.
Sur le terrain, la situation est restée tendue hier jeudi, jusque dans l'après-midi à Boutembo, au quatrième jour de la paralysie des activités socio-économiques. Des mouvements citoyens à l'origine des manifestations ont organisé une messe le matin pour demander à Dieu de rétablir la paix dans la région. À l'issue de la dite messe, les manifestants ont pris la direction de la base de la MONUSCO. Les forces de l'ordre ont dû tirer plusieurs coups de feu en l'air pour les disperser. Le commandant intérimaire de la police nationale congolaise Boutembo avance un bilan provisoire d'un policier blessé par des projectiles et quelques arrestations parmi les manifestants. Grâce à Mzati pour le reportage.
À ce quatrième jour de manifestation, la ville de Boutembo s'est encore réveillée dans la léthargie. Toutes les grandes activités socio-économiques sont restées paralysées. Les boutiques, magasins, pharmacies, autres grands commerces sont restés fermés. La circulation, quant à elle, demeure timide. Ce jeudi matin, les manifestants ont organisé une messe au stade Matokeo, réunissant les chrétiens des différentes confessions religieuses. L'objectif de ces cultes, d'après les organisateurs, était d'implorer la grâce divine afin que la paix revienne dans la région de Beni, où l'insécurité n'a fait que trop durer. À la fin de la dite messe, la tension est montée d'un cran. Les manifestants ont pris la direction de la base de la MONUSCO. Les forces de l'ordre ont dû tirer plusieurs coups de balles en l'air pour les disperser. Quelques minutes plus tard, les manifestants sont rentrés au centre-ville et ont barricadé certaines artères, notamment au niveau de la galerie GTB sur la rue Kinshasa. Ainsi, des coups de balles sporadiques ont continué à se faire entendre dans la ville jusqu'à tard dans l'après-midi. Le commandant urbain de la police dresse un bilan provisoire d'un policier blessé et de quatre civils arrêtés parmi les manifestants. Cependant, le parlement Debout de Fourou, un des organisateurs de la manifestation, affirme que le bilan serait plus lourd que ça. Boutembo, grâce à Mzati. Radio Kapi.
À Beni, une paralysie des activités socio-économiques a également été constatée hier jeudi. Les jeunes des mouvements citoyens étaient dans la rue depuis les premières heures du matin pour demander la fin des massacres à Beni. Quelques arrestations ont été opérées par les forces de l'ordre qui sont déployées depuis le début de ces manifestations dans la ville pour rétablir l'ordre. Le point avec Marc Marofimbo.
Aucune activité était signalée ce jeudi jusqu'aux heures d'après-midi en ville de Beni. Les rues sont restées désertes, les barricades de manifestants observées dans plusieurs rues des quartiers et communes de la ville de Beni. La police ainsi que les forces armées étaient actives pour remettre de l'ordre en dégageant les barricades. Les manifestants qui ont réussi à atteindre leur destination finale à la base de la MONUSCO à Bouikene étaient en face des forces de l'ordre. On signale une dizaine d'arrestations suite au cas de dérapage. Un jeune a été blessé par balle de sommation pour disperser les manifestants. Des dégâts matériels aussi sont à signaler, notamment l'ambulance de la clinique Ma Famille attaquée par les manifestants. Par contre, vers 16h, une dizaine de femmes marchandes de vivres étaient visibles au petit marché Kilokwa de la ville de Beni. La population se précipitait pour se ravitailler en vivres. Certaines pharmacies et quelques alimentations seulement ont ouvert leurs portes tard dans les après-midi, signalant que les forces de sécurité sont toujours visibles dans les coins chauds de la ville pour remettre de l'ordre. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Des engins et équipements militaires destinés à la force spéciale mise en place au sein de la brigade spéciale d'intervention commencent à arriver depuis mercredi à Beni. Il s'agit d'au moins 25 véhicules militaires qui faciliteront le travail de cette force spéciale qui sera plus réactive et mobile. C'est pour mieux faire face à l'insécurité dans la région et mieux protéger les civils. L'entrée de ces engins à Beni via le poste frontalier de Kassindi a suscité les réactions de certains qui accusent la MONUSCO de transporter des armes et des hommes pour une destination inconnue. Pour plus d'éclaircissements, nous avons ici les explications du commandant adjoint de la brigade spéciale d'intervention, le colonel Duma Emmanuel Katungé. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Tous ces matériels appartiennent aux troupes des forces d'intervention rapide en provenance de la Tanzanie, dont les hommes sont déjà ici à Beni. Ils étaient arrivés par un vol spécial de la Tanzanie pour Goma, puis acheminés ici à Beni. Ce sont des troupes qui sont déployées dans l'objectif de sécuriser les agglomérations et villages et barrer la route aux menaces de ces forces irrégulières qui ne cessent de tracasser la population. Avec ces matériels adaptés au terrain, ces troupes auront la capacité de mobilité rapide pour mouvoir dans les agglomérations afin de sécuriser la population. Ainsi, toutes ces informations sur les médias et les réseaux sociaux ne sont que des propagandes de ceux-là qui tuent la population. Ils le font pour que la population soit en conflit avec l'armée et la MONUSCO, pour qu'elle ne soit pas à mesure de bien assurer leur responsabilité de protéger la population. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune arme, aucune machette, comme ça se dit dans la population. Tous les enjeux sont ici dans les camps. Ceux qui sont curieux peuvent venir le voir ici.
Nous vous l'avions annoncé, Radio Okapi lance cette semaine une série des productions pour mieux faire comprendre le mandat de la MONUSCO dans son volet de protection des civils de 2001 à nos jours. Nous vous proposons aujourd'hui la deuxième partie de notre reportage sur l'appui de la MONUSCO dans la lutte contre l'impunité dans la région du Kasaï où de nombreuses violations des droits de l'homme ont été commises en 2016 et 2017. Alors que la mission onusienne prépare son retrait de la région, certains acteurs de la justice disent craindre pour la poursuite de l'aide en faveur des institutions judiciaires. Suivez ce reportage de Joël Bofengo.
La section des droits de l'homme de la MONUSCO encourage les victimes dont elle assure la protection à témoigner pour faire avancer les enquêtes menées au sujet des violations des droits humains enregistrées au Kasaï. Dans certains dossiers, comme le massacre présumé des civils à Nganza ou les viols présumés des femmes à Mulombodi, les droits de l'homme et la section d'appui à la justice ont également assisté le parquet dans ces enquêtes. Alors que la MONUSCO prépare son retrait de la région du Kasaï, certains ténors du barreau redoutent que ces départs mettent fin à l'assistance apportée à la justice. C'est notamment le cas de l'ancien bâtonnier, maître Dominique Kambala.
C'est à travers la MONUSCO, les organismes du système des Nations Unies, que la justice a été appuyée. Notamment, vous vous rappellerez, il y a les enquêtes conjointes qui ont été menées, qui ont permis à ce que la plupart des dossiers soient fixés. Maintenant que la MONUSCO part, le secteur de la justice risque d'être encore davantage pauvre en termes de ressources, en termes de moyens. Ça aura un coût fatal par rapport à ce combat, par rapport à la justice.
On visite à Kananga pour faire un état des lieux du processus de retrait de la MONUSCO. La chef de la mission onusienne a annoncé jeudi dernier que certaines composantes comme les droits de l'homme vont rester pour appuyer les institutions congolaises dans la lutte contre l'impunité. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
La réponse humanitaire ne peut réussir si on ne s'attaque pas aux causes structurelles en RDC, dont le rétablissement de la paix. La déclaration est du coordonnateur humanitaire David McLachlan Carr au cours d'une conférence hier jeudi à Kinshasa. Pour lui, la résurgence des conflits dans l'est du pays, les chocs économiques et la pandémie de COVID-19 sont les facteurs déterminants de cette crise alimentaire. On écoute David McLachlan Carr dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
Oui, malheureusement, les affrontements armés ont lieu presque quotidiennement. Au Nord Kivu, en Étourie, au Sud Kivu. Maintenant, nous avons une situation assez précaire dans Beni, Butembo, avec des menaces contre les agences humanitaires qui travaillent dans cette zone. Pour nous, c'est une très, très, très grande préoccupation parce que dans cette zone, si nous devons suspendre, c'est la population locale qui va souffrir. Et c'est pour ça que le rétablissement de la paix et de la sécurité est primordial pour assurer la quiétude de la population et des meilleures conditions de vie. La réponse humanitaire doit être accompagnée par une amélioration significative sur les situations sécuritaires. Et nous, notre stratégie maintenant, c'est de renforcer l'approche Nexus. Ça veut dire un travail entre les acteurs de développement, les acteurs humanitaires et les acteurs qui construisent la paix. Travailler ensemble pour renforcer notre action dans le pays.
Selon un dernier rapport, la RDC connaît en 2021 la plus grande insécurité alimentaire au monde avec 27,3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë, soit 28% de sa population. Et cette information, en bref, c'est ce vendredi que l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, sera inhumé. Son corps est arrivé le mercredi dans la soirée dans la capitale du cuivre en provenance de Pretoria en Afrique du Sud, où il est mort la semaine dernière. Hier jeudi, son corps est exposé en la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Dans l'avant-midi, plusieurs personnalités lui ont rendu hommage, dont les sénateurs à vie Joseph Kabila.
Actualité internationale.
Le comité intergouvernemental franco-algérien prévu dimanche en Algérie en présence du Premier ministre français Jean Castex est reporté sine die compte tenu du contexte sanitaire annoncé jeudi Matignon à l'AFP. L'épidémie de COVID-19 ne permettant pas à ces délégations de se retrouver dans des conditions pleinement satisfaisantes. Le comité est donc reporté à une date ultérieure lorsque le contexte sanitaire sera plus favorable, a ajouté Matignon. Des sources concordantes françaises et algériennes, le format de la délégation française réduit en raison de l'épidémie a été jugé insuffisant par les autorités hautes, ce qui a précipité cette annulation tardive.
L'invité.
La communauté internationale célèbre le 7 avril de chaque année la Journée mondiale de la santé. 2021 n'a pas fait exception. Et en marge de cette commémoration, le chargé des bureaux de l'OMS, le docteur Amédée Prosper Djingwinde, était l'invité spécial de la conférence des presse des Nations Unies le mercredi à Kinshasa. Radio Capi en a profité pour s'entretenir en exclusivité avec les hauts fonctionnaires de l'Agence mondiale sur les questions liées au coronavirus. Suivez plutôt l'entretien du docteur Amédée avec Honoré Missenga Kalala.
Docteur Amédée Prosper, bonjour.
Bonjour.
Face au coronavirus, on parle beaucoup du mécanisme COVAX. En quoi consiste-t-il?
Je voudrais rapidement dire que le mécanisme COVAX est une initiative qui a été mise en place au niveau international avec véritablement l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé, qui regroupe un certain nombre d'acteurs bilatéraux et bien sûr d'autres bailleurs de fonds, afin de faire en sorte que la vaccination, qui est une stratégie de lutte efficace face à la pandémie de COVID-19, soit effective dans tous les pays. Et à travers ce mécanisme, c'est de permettre à tous les pays les moins nantis de pouvoir bénéficier du vaccin pour couvrir les populations cibles, afin que nous puissions arrêter la chaîne de transmission.
Oui, alors, docteur, l'objectif était de fournir au moins 2 milliards de doses d'ici la fin de l'année, dont 1,3 milliard de doses à 92 pays et territoires à faible niveau, dont la RDC, bien sûr. Nous avons déjà entamé le deuxième trimestre de l'année. Qu'est-ce qui a déjà été fait par rapport à ces programmes au premier trimestre, particulièrement pour l'Afrique et la RDC?
Je pense que ce qu'il est important de noter, c'est que déjà, jusqu'à la date du 1er avril, sur les objectifs que vous avez annoncés, le mécanisme COVAX avait permis de déployer déjà pratiquement 35 millions de doses à travers le monde. Et pour le nombre de pays qui ont été déjà servis, nous avons compté 78 pays qui ont pu bénéficier, bien sûr, dont la RDC. Il est important de noter que sur la globalité, en tenant compte du nombre de vaccins produits dans le monde, toutes molécules confondues, vous avez, à la date du 1er avril, plus de 550 millions de doses qui ont été administrées. Malheureusement, pour la région africaine, nous avons seulement que 11 millions qui ont déjà été distribués. Alors que c'est un continent qui regorge quand même de 17% de la population mondiale.
Parlons du vaccin, docteur. Beaucoup de gens à travers le monde, y compris parmi les leaders intellectuels, sont réticents, voire réfractaires à la vaccination anti-COVID-19. Des gouvernements sont hésitants. Ici, en RDC, par exemple, la campagne de vaccination qui aurait dû démarrer le 15 mars a été reporté à plus tard. Quelle lecture l'OMS se fait de tout ce contexte?
C'est vrai que c'est un contexte qui interpelle tout le monde. C'est vrai qu'il y a une certaine méfiance au regard, bien sûr, de certaines informations qui ont été rapportées sur des effets secondaires liés notamment à certains types de vaccins, dans certains pays scandinaves notamment, et qui fait que des pays ont dû prendre des mesures conservatoires ou des mesures de précaution pour éviter véritablement qu'il y ait une certaine psychose et une mauvaise adhésion, en tout cas, à ce processus de vaccination. Mais ce que je voudrais dire et rassurer les uns et les autres, c'est que avec toutes les évidences qui ont été produites jusque-là, avec les différents experts qui se sont réunis autour, bien sûr, des préoccupations qui ont été soulevées, il a été retenu et recommandé véritablement que le processus de vaccination puisse se poursuivre, car le bénéfice de la vaccination dépasse largement, je dis bien largement, les effets secondaires qui sont notés. Vous vous souviendrez également que même les vaccins de routine, que ce soit les médicaments que nous prenons, il y a toujours des effets secondaires.
Oui, mais quand il y a des effets secondaires qui entraînent jusqu'à la mort, c'est le cas de AstraZeneca. premier cas, ça fait quand même problème.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut répertorier le nombre de cas qu'il y a eu. C'est vrai qu'il ne faut jamais minimiser tout ce qui arrive comme effet secondaire. Ça demande beaucoup de travail et d'attention. Et bien sûr qu'il y a des éléments qui n'ont pas été établis clairement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de lien de cause à effet entre véritablement la survenue de ces effets secondaires et vraiment le vaccin qui a été administré. Et le groupe d'experts, comme je l'ai dit, qui se réunit de façon régulière pour le suivi des effets secondaires, notamment ce qu'on appelle les manifestations post-immunisation, ce groupe a recommandé toujours de poursuivre, bien sûr, la vaccination au regard des bénéfices que cela procure. Je crois que, véritablement, avec ce que nous avons comme évidence, il y a des raisons donc, que nous soyons sereins et que nous puissions aller dans le bon sens.
Donc, pour l'OMS, dans le cas du Covid-19, on ne peut pas se passer du vaccin.
Disons que la vaccination est une stratégie de riposte. Quand vous avez une épidémie ou une pandémie comme ce que nous sommes en train de vivre, rappelez-vous qu'il y a plusieurs stratégies à développer. Il y a plusieurs types d'interventions. Et la vaccination est venue compléter l'arsenal de riposte que nous avons. Et je crois que c'est une évidence qui est montrée. Et nous avons l'obligation d'utiliser cette arme-là pour pouvoir rompre rapidement la chaîne afin de pouvoir revenir à une situation normale dans ce monde qui a été marqué par beaucoup de turbulences.
Docteur Amédée Prosper, merci.
Et c'est la fin de ce journal coordonné par Noëlla Luzitu sous la supervision de Pélique Pélamondo. Vous pouvez le retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité.